Je vous l'ai dit hier, après avoir parlé avec Marcel Dionne, cette légende du hockey, qui est sixième au classement des meilleurs marqueurs de l'histoire de la LNH. Il sera d'ailleurs au tournoi Pee-Wee demain pour rencontrer les gens. Je vous l'ai dit quand j'ai fait cette entrevue-là, je vous ai rappelé à quel point ma job était plaisante. Et ma job va être plaisante encore dans les 15-20 prochaines minutes parce que je vais parler avec un expert. On joint Ray Lalonde, à qui on parle régulièrement dans l'émission. C'est un expert sport et business. Vous pouvez le suivre sur Twitter sous l'onglet Real Ray Lalonde. Également, son podcast Focus, chaque jour, vous entretient sur une période de 4, 5, 6 minutes sur différents sujets du monde du sport. C'est toujours intéressant. Bonsoir, Ray.
Bonsoir, Dan.
Comment vas-tu?
En pleine forme. Merci, toi.
Oui, ça va bien. Je veux qu'on... Évidemment, on a différents sujets devant nous sur la planche à dessin, mais je veux qu'on revienne sur cette signature de contrat d'Austin Matthews. Je pense que l'amateur de hockey n'a pas vu la subtilité dans ce contrat-là, et toi, tu es bien placé pour nous l'expliquer. On a vu la durée, on a vu le montant d'argent, 5 ans, de mémoire 58,1 millions. Sauf que quand on le décortique, on se rend compte qu'il y a un imposant boni de signature. Et je veux que tu m'expliques pourquoi, maintenant, il y a certains contrats qui vont être fabriqués comme ça.
Alors, la question, c'est vraiment aujourd'hui, pour les agents et les joueurs, d'anticiper le potentiel d'un arrêt de travail. Alors, pour éviter de manquer un chèque de paye, une année complète, peu importe en termes de salaire, les agents ont trouvé une façon de placer une somme importante de la valeur du contrat en boni garanti.
Okay. Bon,
si on prend la NFL qui, depuis des années, ne cesse d'augmenter l'argent garanti aux joueurs parce que le contrat de football dans la NFL avec le joueur n'est pas garanti dans sa totalité, à moins que l'équipe le place en garantie. Donc, c'est-à-dire que si un joueur de la NFL était retranché après 3-4 ans, c'est la fin de son contrat, il n'est pas garanti qu'il sera payé pour les années qui manqueront au contrat. Le hockey a toujours eu des contrats garantis pleinement. Sauf que lorsqu'il y avait un arrêt de travail, ben là, il n'y avait pas de paye pour personne. De cette façon, des bonis payables en début de contrat, on appelle ça en anglais le terme « front-loaded », c'est-à-dire beaucoup de poids et de masse au début plutôt qu'à la fin, fait en sorte que le joueur va avoir son argent, peu importe qu'il y ait un arrêt de travail, que ce soit un lockout, soit une grève. Alors, c'est comme ça que le contrat de Matthews est construit, si on veut, structuré. Et plusieurs joueurs se dirigent vers un modèle de cette forme parce qu'ils ne veulent pas prendre le risque. Un autre, par exemple, qui a eu un contrat avec d'énormes bonnies garanties, c'est Carey Price.
Exact, exact. Carey Price avec le Canadien. Il écoule d'ailleurs la première année de son nouveau contrat.
Oui, puis un contrat de 8 ans pour Carey Price, on va tous se dire, waouh, 8 ans, est-ce qu'il va être encore bon dans 7 ans? C'est la même chose que le salaire de base d'un Austin Matthews qui va être dans les 700-750 000 en fin de contrat. T'sais, c'est sûr que le joueur vaut tellement plus que ça.
Oui.
Il va l'avoir, son argent.
Oui.
C'est un peu comme le principe, Dan, de dire, ouais, les joueurs font les séries éliminatoires, ne seront pas payés pendant les séries. C'est pas vrai qu'ils ne sont pas payés pendant les séries. C'est qu'ils ne reçoivent pas un chèque de paye pendant les séries. Ils sont payés sur une base annuelle de 12 mois de toute façon.
Et les auditeurs qui nous écoutent actuellement, Ray, il ne faut pas que ces gens-là pensent que comme on y a donné un gros boni à Austin Matthews dès le départ, ben le plafond salarial, ça ne l'affectera pas de la même façon. Le plafond salarial, non. Ce sera quand même 11,6 millions par année.
Absolument. On prend la moyenne de son contrat en termes d'années et d'argent au total, on divise et puis on arrive à une somme. C'est cette somme-là qui est applicable sur le contrat, sur la masse salariale, et ce qu'on appelle en anglais le « cap hit ». Donc, les livres ne sont pas favorisés.
Okay.
Au contraire, celui qui est favorisé, c'est le joueur, dans ce cas-ci, Matthews. Mais ça, cette façon-là, Dan, j'ouvre une petite parenthèse, toutes les équipes ne peuvent pas se payer ce luxe-là parce qu'ils n'ont pas toutes la même liquidité au moment où ces sommes d'argent-là sont dues. Parce que ça, c'est de la vraie argent qui va sortir des poches de Maple Leaf Sports Entertainment.
Okay.
Puis quand je pense aux pauvres sénateurs d'Ottawa, ils n'auraient pas les moyens jamais, eux, d'avoir des bonis de cet ordre-là, de cette envergure-là, pour des Stone ou des Duchesne, comme c'est le cas actuellement dans les négociations.
OK, donc c'est légal, mais c'est pas tout le monde qui peut se le permettre.
C'est simplement à cause de la liquidité.
Parfait.
À cause de la rentabilité de certaines franchises. Les Canadiens, les Rangers, les Blackhawks, les Maple Leafs, ce sont des équipes très riches qui font d'énormes profits puis qui ont toujours l'argent. Mais des équipes plus pauvres, je pense aux Hurricanes, aux Panthers, aux Islanders, aux Blue Jackets, aux Coyotes et aux Sénateurs, ah ben là, eux ne pourraient pas engager autant d'argent si rapidement parce qu'ils ont moins d'argent qui rentre dans les coffres de l'équipe sur une base annuelle et surtout saisonnière au moment où le mois de juin, juillet arrive puis les bonis sont dus. Les équipes n'ont pas toute cette somme d'argent-là.
OK, je comprends. Je veux sortir un peu du contrat de Matthews, mais élaborer un peu. Tu as abordé le sujet du conflit de travail potentiel. Peux-tu expliquer à nos auditeurs, c'est à partir de quelle saison, puis dans quelle mesure, on a souvent entendu « lockout » dans les dernières années, dans quelle mesure on pourrait se retrouver en conflit de travail, mais lancé par l'Association des joueurs?
Bon, alors, le dossier du conflit de travail possible, je ne veux pas spéculer, là, parce que je ne veux certainement pas lancer des rumeurs.
Oui.
Ça fait surface au baseball, ça fait surface au football de la NFL, ça fait surface au hockey, dans le sens que lorsqu'on arrive vers la fin d'une convention collective, il y a toujours des irritants. Et dans ce cas-ci, pour le hockey, les joueurs, il y a deux, trois irritants majeurs. Un des premiers irritants, c'est la taxe de luxe, que j'appelle, moi, l'escrow.
Oui.
C'est un peu une retenue sur les payes des joueurs. Jusqu'au moment où la saison, l'année fiscale se termine pour la Ligue nationale, puis on sait si la Ligue a fait les sommes d'argent anticipées de façon à protéger les propriétaires. Contre la promesse que le 50% promis était trop élevé. Donc, les joueurs perdent, ben ils perdent pas, mais ils n'obtiennent pas tout de suite 6, 8, 10% annuellement jusqu'à la fin de la saison. Et de cette façon-là, ils attendent évidemment que l'escrow soit payé. Okay. Ça, c'est une chose qui les irrite. Ils voudraient éliminer l'escrow ou du moins la diminuer.
Okay.
L'autre chose, participation aux Jeux olympiques. Les joueurs sont toujours aussi offusqués du fait que Gary Bettman et les dirigeants propriétaires ont décidé de ne pas participer parce que ça enlève aux joueurs la chance unique de participer et de représenter leur pays, quel qu'il soit, dans une compétition internationale en anglais, encore une fois, si tu me permets, best contre best, ça veut dire les meilleurs contre les meilleurs.
Ouais.
Alors, ça, c'est un irritant parce que les joueurs rejettent l'idée qu'ils ne devaient pas aller à Pyeongchang et c'est pas certain qu'ils aillent à Pékin en 2022. Et encore une fois, les joueurs reprochent à Bettman peut-être le manque de vision sur la globalisation de la Ligue nationale. Parce que les joueurs savent très bien que c'est une expérience de vie pour eux, mais en plus, ça ouvre des portes commerciales pour l'industrie du hockey. Alors, ce sont les deux irritants, à mon avis, majeurs dans une situation comme ça. Parce que, à part ça, la santé de la Ligue nationale, toi et moi, on a parlé à plusieurs reprises, Dan, ça va très bien, là. Oui. On pense à Seattle, on pense à Vegas, oui. On pense aux équipes, on pense aux contrats de télé, on pense à NBC qui continue de s'investir, puis on pense maintenant à la technologie qui prend forme dans la Ligue nationale de hockey. Alors, il y a beaucoup d'opportunités commerciales, puis je parle même pas des paris sportifs avec MGM Resorts. Il y a beaucoup d'argent qui va couler. Le cap salarial va augmenter pour les équipes, évidemment. Ça, c'est encourageant pour les équipes qui sont déjà presque au plafond. Ils vont avoir un peu d'argent de plus pour dépenser. Et ça va, encore une fois, mettre de la pression sur le plancher, ce qui force les équipes plus faibles à en faire davantage eux aussi. Alors, dans l'ensemble de l'œuvre, le conflit de travail, là, je pense, si ma mémoire est bonne, c'est à la fin de la saison 2020-2021.
OK, il reste deux saisons. Okay.
Ouais, il reste deux saisons.
Parfait.
Parce que rappelle-toi que récemment, ils ont annulé la Coupe du monde de hockey, qui a eu lieu en 2016, puis qui aurait dû revenir à la table en 2020.
Oui.
Et ben là, ils l'ont annulé pour toutes sortes de raisons. Le temps, la préparation, mais aussi l'ombre d'un arrêt de travail possible. Et ils ne voulaient pas jouer une Coupe du monde à l'approche d'un arrêt comme ce fut le cas en 2016, justement.
OK. Toi, tu connais très bien la façon dont une équipe au niveau financier, avec quoi une équipe doit composer. Tu as travaillé pour le marketing du Canadien de Montréal. Cette semaine, il y a des auditeurs qui m'écrivaient « Dan, ça n'a pas de bon sens, 9472 spectateurs en Floride. Comment M. Bettman réussit à s'entêter et à garder l'équipe-là? » Est-ce que d'avoir aussi peu de spectateurs dans un amphithéâtre, pour un gars de marketing comme toi, Ray, c'est, je dirais pas banal, là, mais je dirais secondaire ou catastrophique?
Non, c'est catastrophique.
Okay.
Il n'y a aucun doute dans ma tête. Moi, je ne peux pas comprendre la direction des Panthers ou des Coyotes ou quelques équipes de ce niveau-là. Et je ne veux pas les blâmer personnellement parce que je comprends que ce sont des marchés non traditionnels. Cependant, ce n'est pas hier là, qu'ils ont hérité d'une équipe de hockey.
Non.
Il y en a depuis des années.
Ouais.
Et ça ne fonctionne pas très bien. Alors, je ne suis pas en train de dire « ça ne fonctionnera jamais, déménage-moi le club, envoie-moi ça ailleurs ». Non. Ce que je suis en train de dire, c'est que je ne comprends pas que les propriétaires et dirigeants n'aient pas trouvé les bons individus et n'ont pas mis en place les bonnes stratégies avec l'aspect événementiel, valeur ajoutée, l'aspect divertissement pour le spectateur consommateur de sport, dans des marchés comme le sud de la Floride, comme la Caroline, comme l'Arizona, qui réussissent dans d'autres sports. Alors, comment expliquer que ces équipes-là pataugent année après année? Et le commissaire, ben, honnêtement, on peut pas blâmer le commissaire parce que les propriétaires insistent pour garder leur équipe, insistent pour subir les pertes,
oui,
et insistent pour arriver à une solution. Alors, c'est pas le travail du commissaire de se mêler de ça directement. Il peut mettre la pression, mais ce sont les dirigeants d'équipe qui n'ont pas encore trouvé les bons opérateurs. À mon avis, c'est la clé du succès. L'opérateur et l'entraîneur. Je t'en ai déjà parlé.
OK. L'année dernière, à la date limite de transaction, les Rangers ont fait le ménage du printemps et ils ont envoyé des vétérans dans d'autres équipes. Je pense à Rick Nash avec les Bruins. Je pense à Nick Holden également qui a été échangé. Et l'organisation des Rangers a fait un coup de maître en envoyant une lettre aux partisans et en disant « Voici notre plan. Voici pourquoi on échange des joueurs que vous adorez, mais c'est pour le bien de l'équipe et c'est pour être plus compétitif dans le futur. » Ça a été très bien reçu aux quatre coins de la Ligue et moi, j'ai applaudi cette initiative-là. Cette année, après la transaction Jake Muzin qui est passé des Kings aux Leafs, Luc Robitaille a fait un peu la même chose. Moi, j'ai vu une conséquence de la lettre des Rangers par le geste de Luc Robitaille qui s'est adressé à ses détenteurs de billets de saison et il a dit « On a échangé Muzin pour le bien de notre organisation et on veut être compétitif dans les prochaines années. » Est-ce que tu... D'abord, c'est quoi ton impression? Moi, j'ai beau trouver ça intéressant. Peut-être que toi, tu n'es pas de cet avis-là du tout. Mais est-ce que ça peut faire des petits... Est-ce que cette année, le 25 février, quand des équipes vont rebâtir leur formation, est-ce qu'on pourrait voir ce même genre d'initiative? Est-ce que ça se fait dans d'autres sports?
Ça, c'est une question à plusieurs tentacules. Puis je vais y répondre de façon un peu diversifiée. D'abord, j'applaudis le geste.
Okay.
Je pense que les Rangers ont fait la bonne chose l'an dernier. Puis je pense que Luc Robitaille a fait la bonne chose cette année de communiquer directement avec ses partisans. On peut pas être accusé dans le sport en 2019, Dan, de ne pas communiquer. Et on a 50 façons avec des réseaux sociaux, puis avec toutes sortes de plateformes, puis avec toutes sortes de moyens, 24 heures sur 24 virtuellement, de connecter, d'engager et de communiquer le message à nos partisans. Les partisans s'attendent à de la transparence, ils s'attendent à de l'espoir.
Okay.
Ils s'attendent à des solutions. Tu me demandes de payer cher pour mon billet, tu me demandes de passer 3 heures pour un match. Entre-temps, donne-moi la vérité puis l'heure juste. Alors, si tu veux me raconter des histoires puis je te crois, OK, ça c'est sur moi. Mais si tu veux me donner de l'espoir puis me dire que voici les gestes puis les actions que vous allez poser comme organisation, ben je vais te croire aussi puis je vais acheter. Je vais te donner le soutien que tu as besoin puis je vais appuyer ton équipe. OK. Le sport aujourd'hui, c'est quand même tentant pour les équipes de dire, ben on va se faire une lettre, on va envoyer ça aux partisans, puis on va s'acheter une autre année. Si, là, tu suis le baseball, il y a quelques semaines, ils ont eu des rencontres dans le baseball majeur. Ils sont à la veille de pénaliser les équipes qui ne performent pas en termes de victoires et de défaites.
Oh!
Faire les séries, c'est une chose, on est d'accord. Il y a quelques équipes seulement qui arrivent au baseball. Alors, même si tu as une fiche gagnante, ça ne veut pas dire que tu vas faire les séries. Mais là, le baseball est en train de se rendre compte puis de réaliser qu'il y a des équipes qui, maintenant, qui voient les Yankees, les Red Sox, les Dodgers, les Cubs et ces équipes-là très riches comme les Giants dépenser 150 à 200, 225 millions par année. Ils se disent, ben, regarde, pourquoi dépenser plus que 100 millions? De toute façon, on ne gagnera pas. Et notre fiche n'est pas représentative de notre envie de compétitionner. Ce que je veux dire par là, c'est que on les rejoindra jamais. Fait que gardons notre argent dans notre poche. Alors là, le commissaire et l'association des joueurs ont eu des rencontres pour éviter que cette situation-là se reproduise. Ils vont pénaliser les équipes qui n'ont pas des fiches gagnantes. Ils vont récompenser les équipes qui ont des fiches gagnantes, même si tu n'as pas fait les séries. Alors, ça, c'est sur la table. Ça s'en vient bientôt. Ça, c'est une façon de motiver les équipes, de toujours communiquer avec leurs partisans, de toujours s'engager vers la victoire, de donner tout le maximum en termes de ressources pour gagner des matchs. Et, évidemment, Dan, pour attirer des partisans dans les gradins, faire en sorte que ça compte. Donc, ça fait partie des changements qu'on voit dans les années 2015-2020. On est en 2019. On se modernise dans tous les sports, puis on est de plus en plus attentif à la perception extérieure de notre produit parce qu'on est vulnérable. Il y a de la compétition et on peut rapidement se faire exclure du menu quotidien des consommateurs de sport.
OK. Il y a des cas précis dans les dernières semaines, derniers mois, d'organisations sportives qui font graduer des jeunes, très jeunes, à un niveau supérieur. Je pense à Carter Hart, le gardien des Flyers, qui a seulement 20 ans. Je pense l'été dernier à Juan Soto, des Nationals de Washington, qui est âgé de seulement 19 ans. Évidemment, McDavid et Matthews sont d'autres exemples, mais mettons qu'on les met dans la catégorie des surdoués, eux autres, donc c'est un peu moins surprenant. C'est quoi ta lecture d'experts sport et business d'un jeune qui pourrait graduer prématurément? Il y a évidemment une cause à effet. Il y a un propriétaire qui veut faire de l'argent, il y a un DG qui veut gagner, puis il y a un entraîneur-chef qui veut garder sa job. Tout ça pour le bénéfice du développement d'un seul athlète.
Bien, Dan, tu viens de le dire. Tu as l'aspect protection, maturité, pas lancer le jeune dans la fosse aux lions trop rapidement. Mais l'autre côté, tu l'as dit aussi, le propriétaire, il est là pour faire de l'argent. Alors, selon moi, le propriétaire voulant dire le président, le directeur de l'équipe, là, ainsi de suite, ils doivent toujours savoir que c'est une business, ils doivent vendre leur business, ils doivent attirer des partisans, ils doivent être populaires, c'est commercialisation au maximum. Ceci veut dire que, à un moment donné, là, quand tu as pris la décision que le jeune, peu importe le sport, corps arrière au football, gardien de but au hockey, ainsi de suite, lorsqu'il est prêt, il doit jouer. Bon, il y a des directeurs gérants qui vont dire « Non, moi, je veux le protéger un peu plus longtemps parce que ça représente notre avenir. L'autre nous donne encore quelques bonnes actions, quelques bonnes années. On le garde, on patiente. » Mais d'un autre côté, à un moment donné, si le joueur arrive, tu le joues trop vite, puis il se brûle, je suis obligé de dire, là, de façon un peu banale, là, trouve-en un autre.
Okay.
Parce que c'est une business de ce qu'on appelle des actifs.
Ouais.
L'actif, il est utilisable à un moment donné. Il y a toutes sortes de circonstances en termes de timing, en termes de l'entraîneur, en termes de fiche de ton équipe. C'est pas toujours le moment idéal dans le nirvana que tu dois arriver pour laisser un joueur s'éblouir. À un moment donné, tu as besoin de lui. Soit qu'il va te vendre des billets, soit qu'on a un problème devant le filet, soit que notre carrière livre pas, puis là, nos partisans sont à veille de nous abandonner. À un moment donné, il faut qu'il joue. Bon, alors, à travers tout ça, tu prends la meilleure décision, la plus sensible. Le cas de Carter Hart, c'est sûr que les Flyers, parmi les 31 équipes de la Ligue, c'est peut-être l'équipe qui, depuis 10 ans, 15 ans... Hey, on a joué contre les Flyers en finale de conférence en 2010 avec les Canadiens. C'était Michael Layton, là.
Oui.
Michael Layton, il était encore en Ligue américaine, dans une Ligue possiblement prêt à être appelé par les Canucks de Vancouver, si ma mémoire est bonne. Michael Layton était déjà vieux à l'époque.
Oui.
Les Flyers l'ont mis dans le filet, il nous a battus en série en finale de l'Est. Les Flyers ont des problèmes de gardien. Ils n'ont jamais de relève. Ça remonte-tu à Bernard Parent, à Pelle Lindbergh? Ben, en tout cas, ça remonte à longtemps.
Ça fait longtemps, exact.
Ouais. Alors, Carter Hart représente un peu l'avenir.
Ouais.
Alors, pourquoi pas le lancer dans la fosse aux lions? Mais moi, m'a dire, lundi soir dernier, les Canucks de Vancouver ont mis Michael DiPietro dans le filet.
Ouais, ça a mal tourné.
Michael DiPietro, celui qu'on a vu dans le championnat du monde junior.
Exact.
Il a alloué 7 buts en 24 lancés. 3 des 5 premiers lancés dans le filet.
Ouais.
Pauvre DiPietro. Est-ce qu'il va être un bon gardien dans la Ligue? Probablement que oui. Est-ce que c'était trop tôt? Ben, il y a eu des circonstances. Blessure au substitut, puis Markstrom était pas prêt à revenir. Ils ont fait un rappel rapidement. Le gars jouait dans le junior majeur en Ontario.
Ouais.
Non, mais c'est pas juste pour lui. Mais c'est pour te dire, bon, il y a une différence dans le calibre. Puis deuxièmement, faisons attention à sa confiance. Ils ont dit peut-être qu'il va nous sortir un gros match, tu sais, puis il va jouer sur sa tête, comme on dit.
Ouais.
Ça n'a pas été le cas. 7 buts contre les Sharks, et comme on dit, il s'est fait lancer dans la fosse aux requins.
Ouais, dans la fosse aux requins.
C'était vraiment pas drôle pour lui, mais j'ai entendu son entrevue d'après-match. Il l'a pris de façon sereine.
Okay.
Il est vraiment bien modéré et équilibré. Il va s'en remettre. Mais c'est pour te dire, regarde, Baker Mayfield arrive avec les Browns de Cleveland.
Ouais.
L'équipe avait pas gagné depuis 2 ans, là. Puis, ils ont gagné 5-6 matchs cette année grâce à lui directement.
Oui, aucun doute.
Alors, ça, c'est une position importante. Il y a quelques positions, Dan, gardien de but au hockey, lanceur au baseball, corps arrière au football, où là, tu as un autre niveau de pression. Il y a des cas de réussite, puis il y a des cas d'échec.
OK. Dernier sujet sur lequel je veux m'arrêter avec toi, c'est Kyler Murray, le gagnant du trophée Heisman, qui a été repêché en première ronde, de mémoire 8e au total par les Aces d'Oakland en 2018. Il a dit, il y a quelques mois, « Ouais, le repêchage de la NFL, ça m'intéresse. » Mais là, cette semaine, il a non seulement dit « ça m'intéresse », mais il a dit « je vais être là au repêchage de la NFL et je m'engage pour jouer dans la NFL. » Donc, il doit rembourser 85% de son boni de signature avec les Aces. Sans ligne pour jouer dans la NFL. Est-ce qu'en termes marketing, c'est un œil au bord noir pour le baseball majeur et un cadeau de fête pour la NFL?
Oui, t'as raison. Le baseball a raté une chance d'avoir un autre joueur étoile, une autre vedette, un autre nom connu. Imagine, tu gagnes le trophée Heisman, tu te retrouves au baseball majeur, le baseball en profite. Ils font un peu une mise en marché, que ce soit les Aces d'Oakland, son équipe de prédilection, ou que ce soit toute autre équipe ou toute autre organisation, il pourrait dire que Kyler Murray est un champion du football qui vient jouer notre sport, oui, parce que ça, c'est bon pour le baseball. Malheureusement, il s'en va dans la NFL. Ce que j'ai aimé de Murray dans ses commentaires, c'est qu'il a, il s'est engagé à se dévouer corps et âme pour devenir un quart arrière de haut niveau dans la NFL. Il a pas juste dit, là, je choisis la NFL. Il a dit, je vais m'engager et mettre toute mon énergie derrière ma passion qui est le football. Ça, c'est ce que j'appelle un contrat, un commitment, comme on dit en anglais, un engagement. Alors, je pense que c'est dommage pour le baseball d'avoir raté ça. Le baseball, là, parmi les cinq ligues, puis j'inclus la MLS, honnêtement, là, c'est eux qui ont la vie la plus dure ces temps-ci. Les agents libres signent pas, Dan. Il y a encore Machado puis Bryce, ouais, Harper pas signé. C'est compliqué. Y a-tu de la collusion? Il y en a pas. Les règlements doivent changer parce que les games sont trop longues. Les Yankees et les Red Sox et les Cubs et les Dodgers dominent à chaque année. C'est déséquilibré. Puis en plus, le baseball est pas perçu comme un sport très moderne. T'sais, eux ont des choses à améliorer rapidement s'ils veulent rattraper les autres. Parmi les cinq ligues, là, c'est celle qui a les plus gros défis.
OK. Parfait, Ray. Un gros merci. Bonne soirée à toi.
Salut, Dan. Merci à toi. Bonne soirée.
Salut bien. Ray Lalonde, que vous pouvez entendre également sur RDS, mais c'est l'expert sport et business pour l'ensemble du réseau Cogeco.